religion and politics and still the people hungry. Leaders step on Twitter, feed them ego like a dummy. Coming like a coming people, nothing they are funny. Land of the free and the home of the brave. Who can see the owning of the people as the good old days? Now I hear they really want to make it great again. Acting like it was so great back then. Oh man. Seeing that we now know what they say ain't so. Will you stay or go? Knowing freedom calling, calling while the camera show.
De retrouver la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et comme tous les lundis dans un contexte normal, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de 9e heure. Nous profitons de cette émission pour projeter par le truchement des ondes radiophoniques les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics directement dans vos oreilles. Comme depuis quelques semaines, cette émission n'est pas du tout en direct depuis le studio et quand même presque un peu en direct depuis mon chez-moi où je l'enregistre. J'en profite pour saluer au passage mes petits camarades qui ne peuvent hélas pas m'aider dans ce contexte particulier. Confinement même fini, on respecte distance de sécurité donc on n'a toujours pas accès nous au studio pour pouvoir avoir une émission en direct. Alors j'espère que vous profitez bien du retour à la normale et puis que vous avez également profité de cette interruption temporelle pour continuer à avoir de saines lectures. On commence tout de suite cette émission avec des news. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'en dehors de la lecture, je pratique assidûment le jeu de société et plus particulièrement le jeu de rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette activité, je vous invite à regarder sur YouTube les vidéos des chaînes Roll and Play ou encore d'autres Let's Play qui sont plutôt significatifs et vraiment instructives. Pour résumer, je pourrais juste vous dire qu'il s'agit en gros d'une pièce de théâtre d'improvisation dans un univers choisi. Bon, assez parlé de moi. Depuis quelque temps, cet univers du jeu de rôle et celui du 9e art ont tissé des liens plutôt étroits. Si les adaptations des séries Black Sad et Freak Squeal vers ce support commencent déjà à dater un petit peu, on a eu quelques collisions entre le monde du 9e art et celui du jeu de rôle beaucoup plus récente. En premier, la diversification de l'éditeur de bande dessinée Aquileos, qui se lance dans ce loisir avec la publication en français de Dungeon Crawl Classic, adaptation du jeu éponyme publié en anglais en 2012 par Goodman Games. Un jeu de rôle qui, s'il n'a rien à voir avec la bande dessinée, renoue avec les bases du JDR, jeu de rôle, et de son fort lien avec la littérature fantastique et d'heroic fantasy. Afin de réussir ce lancement, Aquileos s'est tourné vers le financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop et a réuni près de 700% de la somme requise au financement. Le Let's Play, sorte de seconde chance, est d'ailleurs toujours ouvert à ce jour si l'aventure vous tente. Plus proche encore de notre média favori, c'est l'annonce très récente par Black Book Edition, un éditeur spécialisé dans le jeu de rôle, de la collaboration avec les éditions Soleil, afin de réaliser l'adaptation rôlistique de plusieurs de ces séries dans un JDR. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà deviné, il s'agit bien entendu d'adapter les séries se déroulant dans les terres d'Arran. En effet, ces séries, elfes, nains, orques et gobelins et mages, puisaient déjà fortement dans l'imaginaire largement utilisé dans le jeu de rôle, et son adaptation est sans doute son évolution la plus naturelle. Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, la série qui compte au global plus de 50 tomes à ce jour, renferme un univers riche et développé, adéquat à une itération ludique. Que ce soit du côté de Delcourt Soleil ou de Black Book Edition, la démarche est claire et il s'agit de proposer un prolongement de l'univers existant plutôt qu'une simple transposition. Le produit devrait être disponible prochainement au financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop. De quoi intriguer les nombreux lecteurs et rôlistes de tout poil. Et si le jeu de rôle vous intrigue, un autre projet dont le financement participatif vient juste de commencer devrait également vous intéresser. En effet, The Trouble Shooters, les Risque-Tout, est un jeu de rôle inspiré de la bande dessinée franco-belge. En effet, ce jeu de rôle d'origine suédoise et coédité en France par Arcane Asylum Publishing s'inspire très fortement des classiques BD d'aventure à la Spirou et Fantasio. Le graphisme de Ronja Melin, l'illustratrice, permet une immersion facile car elle reprend sans faille les codes si connus des amateurs du 9e art. Si le système semble de prime abord facile à prendre en main, avec un duo de jets de pourcentage face à un jet de compétences, qui est déjà bien connu par les rôlistes, il faudra tenter l'aventure pour connaître réellement l'efficacité en termes de jeu et de mise en ambiance de ces mécaniques spécifiques. Et justement, parlons-en de l'ambiance. Le jeu prend place dans des années 60 fictives et les joueurs seront un groupe d'amis, un brin aventurier qui feront face à une organisation tentaculaire qui, en secret, tente de rompre le fragile équilibre politique en place dans ce continent européen uchronique. Alors, on verra ce que ça donne, mais beaucoup d'aventures, encore une fois, typées Spirou et Fantasio. Au niveau des contreparties proposées, les acheteurs pourront choisir entre la version classique, dont le style ne laisse aucun doute quant à l'inspiration, ou encore une version de luxe toilée du plus bel effet qui rappellera les éditions luxe de certains albums. Les plus fortunés pourront également se laisser tenter et se faire tirer le portrait par Ronja Melin pour devenir un des antagonistes des héros. S'il n'est pas permis à ce jour de juger le produit final, il faut dire que l'éditeur se donne les moyens de conquérir son public spécifique. Affaire à suivre. Sans transition, le prix Osamu Tezuka, décerné par le quotidien national japonais Asahi Shimbun, je pense que je le prononce très mal, vient d'être révélé. Ce prix qui récompense un manga dont au moins un tome a été publié l'année précédente fait bien sûr référence au maître du manga moderne, le papa entre autres d'Astro le Petit Robot. Divisé en plusieurs catégories, ce prix est également doté d'une récompense financière. Le grand prix de cette année a été décerné à Kan Takahama pour La Lanterne de Nyx, publié en français aux éditions Glénat, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette émission. Avec cette récompense, Kan Takahama s'est donc vu attribuer la somme de 2 millions de yens, ce qui correspond à environ 17 000 euros. Toujours du côté du Japon, qui voit aussi son activité éditoriale ralentie par le virus, comme en France, mais les auteurs là-bas aussi n'en profitent pas pour ralentir et continuent également sur leurs projets. C'est également le cas pour Eiichiro Oda, l'auteur du mondialement connu manga One Piece, qui publiait sur son compte Twitter ce mercredi 6 mai un petit message pour rassurer ses fans. En effet, malgré une production quasi à l'arrêt, l'auteur et son équipe ont procédé à une réorganisation du travail afin de poursuivre son activité, même au ralenti. One Piece n'aura donc pas de pause, mais simplement un rallongement de son rythme de publication dans les mois qui viennent, afin de continuer le déroulement de l'histoire. Si vous n'avez pas encore repris le travail, vous pourrez tenter de rattraper votre retard en vous jetant sur les 94 tomes déjà publiés aux éditions Glénat, ou encore binge-watcher les 930 épisodes déjà diffusés, à condition d'être à l'aise avec la langue de Miyazaki, bien entendu. Aller-retour au pays où on a des ancêtres gaulois avec deux ajournements. Le premier est celui du prochain film Astérix. À cause du confinement, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, a vu son tournage finalement repoussé au 8 mars 2021, si tout se déroule comme convenu. La préparation déjà décalée, en soutien à l'épidémie chinoise, a bien sûr subi les affres du confinement, notamment à cause d'un coût d'assurance beaucoup trop important pour risquer la sécurité des différents intervenants. Alain Attal, de chez Trésor Film, explique également que l'ambition du film comprenait de gros décors, de grosses batailles navales et évidemment un très gros budget, ce qui faisait beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir se lancer. Une sécurité également pour les acteurs chinois qui devaient se déplacer pour le tournage. Allez, encore un peu de patience pour se prononcer sur le film de Guillaume Canet qui incarnera également le rôle-titre. Deuxième ajournement, c'est celui des 48 heures BD qui a décidé de ne pas abandonner cette édition 2020, mais seulement de la décaler dans le temps. Soucieux de soutenir l'industrie du livre et les libraires impactés par le confinement, l'équipe d'organisation a reporté son événement initialement prévu les 3 et 4 avril dernier au 3 et 4 juillet prochain, si les mesures sanitaires le permettent bien entendu. Ce sera l'occasion pour de nombreux lecteurs confirmés ou débutants de découvrir une quinzaine de séries pour la modique somme de 2 euros par titre. Je vous invite à découvrir la sélection sur le site 48heuresbd.com. Au niveau des animations initialement prévues, je n'ai hélas pas d'informations à vous communiquer sur leur maintien ou non. Et rendez-vous donc le 3 et 4 juillet prochain pour en profiter dans toutes vos librairies. Si vous avez encore des questions sur le Covid-19, mais que les choses scientifiques vous ennuient, j'ai peut-être la solution pour vous. Est-ce que vous connaissez le professeur Moustache ?
Tu dois les prix Nobel et les savants qui ferait très sévère voyage et dans le temps arbore sa pilosité suppucale et pense en dehors du vocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache.
Ce professeur Moustache est un scientifique créé par l'autrice Marion Montaigne. Il est le personnage de sa série de bande dessinée « Tu mourras moins bête », mais également de l'adaptation en série animée du même nom, faite il y a quelques années par la chaîne Arte. Ce drôle de bonhomme officie encore sporadiquement sur son blog « Tu mourras moins bête.blogspot.com » et à travers lui, Marion Montaigne propose un travail de vulgarisation scientifique plutôt fun et décalé, tout en étant aussi précise et efficace sur les sujets aussi variés que le clitoris ou encore l'impact des jeux vidéo sur les comportements violents. Mardi dernier, le professeur Moustache s'attelait donc à ce bon vieux Covid-19. En effet, suite à une révélation pastorale sur fond de biscuiterie au chocolat, le professeur sut qu'il devait agir et éduquer le monde entier pour lui permettre de finalement comprendre cet ennemi mortel et surtout de faire le tri dans les nombreuses explications scientifiques parfois peu compréhensibles. Cette explication sera en plusieurs parties et donc à suivre sur le blog du professeur Moustache. Allez, une petite dernière pour la route. L'annonce de l'adaptation du comics The Old Guard par la plateforme Netflix. Le comics dont le tome 1 est disponible en français chez Glénat. L'histoire, scénarisée par Greg Rucka, nous parle d'Andromaque de City, une immortelle qui, avec quelques amis immortels eux aussi, propose des services de mercenariat haut de gamme à qui peuvent se les offrir. Malheureusement, lorsque leur identité et particularité risquent d'être révélées, il est temps pour le petit groupe de faire table rase et d'utiliser leurs talents à leur propre protection et dissimulation. Le tout en accompagnant une jeune immortelle nouvellement révélée. Alors j'avais lu The Old Guard il y a quelques temps déjà et tout dans l'ouvrage méritait une adaptation. Que ce soit le scénario qui au demeurant simple savait emporter le lecteur vers des thématiques plus recherchées, ou encore le graphisme de Leandro Fernandez incisif avec des cadrages très cinématographiques et ses ambiances colorées si percutantes. Le long métrage annoncé sera-t-il à la hauteur de l'adaptation et les épaules de Charlize Theron dans le rôle d'Andromaque de City suffisantes pour garantir une bonne adaptation? La réponse à cette question sera à découvrir dès le 10 juillet sur la chaîne Au Grand N Rouge. Allez, c'est tout pour les news. Je vous propose de faire une courte pause musicale avec Soviet Supreme et la chanson Con Confiné.
Говоришь масштаб. Коста формачала кастена. Заяно свои люди учи. Аймо письмо.
Se confine aux confins du cafard, calfeutré dans le confort d'un couffin plumard. T'es confite connard, tu fulmines contre tes chiards qui s'écharpent à tourner dans le salon comme des phares. Tu le confesses, t'es qu'un con confiné. Tu cancanes sur ta femme devant BFM, tu la tacles, elle te baffe et puis tu la fermes. Tu te goinfes, tu te baffes, t'es tout gros, tout flasque. T'es tout nu, tout odu, t'as tombé le masque. Tu le confesses. T'es qu'un con confiné, con confiné. Que fait-on déconfiné? Déconfit, déconfiture. Combien de temps que ça dure?
sur le footing, en carence de câlins. Passe ton temps à Collines. Les sirènes qui dansent, les keufs contredansent, les voisins te balancent, les relents de douce France. Tu le confesses, t'es qu'un con confiné. Relire le capital, se méfier du café, recomptage de PQ au QG du PC, pénurie de denrées que au supermarché. Bah dis-moi, c'est pas le programme du soviet. Tu le confesses, t'es qu'un con confiné. Con confiné, que fait-on déconfiné? Déconfit, déconfiture, combien de temps que ça dure? Chante à minuit, quand soudain, dring, tiens, qui sonne? Amazon? Non, la mort à l'interphone, tu le confesses? T'es qu'un con confiné. La toux sèche, les blagues grasses, y'a plus rien qui passe. Tu te sens faible si t'étais le prochain qui trépasse. Mais le comble du con confiné en russe, c'est que ton ordi aussi a chopé un virus, tu le confesses? T'es qu'un con confiné. Que fait-on déconfiné? Déconfit, déconfiture, combien de temps que ça dure? Con confiné, que fait-on déconfiné? Déconfit, déconfiture, combien de temps que ça dure? Combien de temps que ça dure? Con confiné, 37 que fait-on déconfiné? 36-8, 37-1, déconfit, déconfiture, 37-3, 38-4, combien de temps que ça dure?
101.5 de Radio G, toujours à l'écoute de la case de Seb. Vous venez d'écouter Con Confiné de Soviet Suprême. Bon, d'accord, hein, c'est fini le confinement, mais on reste sérieux et on respecte les gestes barrières. Allez, on passe tout de suite aux chroniques. Pour cette prochaine chronique, je vais vous poser une devinette. Ce personnage est quasi indestructible. C'est un expert en armes et méthodes de mise à mort. Alors si vous pensez à Deadpool, vous n'êtes pas loin, mais c'est pas ça. Vous enlevez toute forme d'humour propre aux mercenaires d'Isère. Voilà, vous lui mettez la peau blanche avec un cercle rouge vif au centre du torse. Allez, avez-vous deviné? Ah si oui, bravo, hein. Puis j'imagine que ma chronique ne vous sera sans doute pas très utile. Sinon, ouvrez bien vos oreilles, car nous allons parler de Bloodshot. Il y a quelques semaines, nous avons déjà parlé de Bloodshot à l'occasion de la sortie de l'adaptation cinématographique où le personnage titre est incarné par le monolithique Vin Diesel. Ce soir, je ne m'attarderai que sur la version comics de ce personnage iconique de l'univers Valiant. Je me base pour cette chronique sur les versions françaises publiées par Bliss Comics. Et principalement sur Bloodshot Intégrale, Bloodshot La Nouvelle Série et Bloodshot Reborn L'Intégrale, tous disponibles chez Bliss Comics et les deux derniers depuis peu. Mais nous rentrerons dans le détail des albums dans quelques instants. Commençons tout d'abord par faire les présentations. Créé en novembre 1992 par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton, Bloodshot est un mercenaire invulnérable. Invulnérable parce que son corps regorge de nanites, des petits organismes microscopiques capables de se reproduire indéfiniment et à volonté, le dotant de nombreuses facultés exceptionnelles. Sa puissance musculaire et son agilité sont décuplées. Son corps possède une faculté de régénération de soins quasi instantanée. Il est capable de modifier pendant quelques instants son apparence physique. Et, en cas de besoin, ces nanites peuvent se connecter à Internet ou à des systèmes informatiques proches. Créé par le projet Rising Spirit pour en faire une arme hors du commun et inarrêtable, capable d'accomplir les missions les plus dangereuses sans état d'âme. Afin de lui permettre d'agir en autonomie et conformément aux besoins de projet Rising Spirit, l'esprit de Bloodshot est programmé selon les besoins. Entendez par là que des souvenirs fictifs sont implantés directement dans le cerveau de Bloodshot, le conditionnant pour chacune de ses missions. Par exemple, s'il doit tuer une personne, on peut lui faire croire que la cible est responsable de la mort de sa famille, femme et enfant. La vengeance devient alors le moteur de notre héros et ses capacités hors normes vont faire le reste. Ce qui fait que ni lui ni le lecteur n'ont la moindre idée de son identité réelle. Alors si celle de l'ancien soldat Ray Angelo semble la plus probable, c'est en tout cas celle qui est la plus utilisée dans les comics. Son principal défaut, c'est que les nanites consomment énormément d'énergie. Et s'il n'y fait pas attention, ses précieuses acolytes microscopiques seront incapables de faire leur office. Si elles meurent de faim, les petites gourmandes risquent d'ailleurs d'aller chercher leur pitance où elles le pourront, et mieux vaudra ne pas se trouver dans les parages à ce moment-là. Lors d'une de ses missions, Bloodshot se verra libéré de l'emprise de Rising Spirit. À partir de cet instant, cette machine à tuer n'aura que deux buts, se venger de ceux qui lui ont infligé cette non-vie et partir en quête de son identité perdue. Allez, on passe au détail des trois albums qui ont servi à l'écriture de cette chronique et qui vous permettront d'en savoir plus sur cette machine de guerre. Alors, commençons avec le début. Dans Bloodshot Intégral, publié en 2018, ce sont plus de 200 pages qui vous permettront de vous initier à l'univers de l'homme au cercle rouge. L'histoire débute après une mission accomplie par notre héros, et celui-ci se retrouve libéré du projet Rising Spirit par un ancien médecin, ancien collaborateur de Rising Spirit. Découvrant sa nature expérimentale et n'appréciant pas vraiment avoir été manipulé, Bloodshot va faire équipe avec une jeune médecin urgentiste qui passait par là, mais également avec Pulse, une jeune femme dont les capacités particulières pourront mettre à mal Bloodshot lui-même. Vous vous doutez bien que tout ne sera pas si simple. Rising Spirit n'ayant clairement pas l'intention de laisser une arme de plusieurs millions de dollars se promener dans la nature. Les différents épisodes qui composent le recueil ont été scénarisés par Dejan Zwierzynski, désolé pour le nom, Joshua Dysart et Christos Gage. Ils ont été mis en image par les crayons de Manuel Garcia, Arturo Lozzi, Barry Kitson et Emanuelo Lupacino. Cet omnibus constitue un véritable point d'entrée dans l'univers Valiant puisque nous y découvrons des personnages emblématiques comme l'ambivalent Toyo Harada ou d'autres psiotiques qui ont chacun leur série dans cet univers. Plus proche de nous et fraîchement sortie, la nouvelle série Bloodshot, scénarisée par Tim Seeley et dessinée par Brett Booth. Plus proche de nous et fraîchement sortie, la nouvelle série Bloodshot, scénarisée par Tim Seeley et dessinée par Brett Booth, nous fait découvrir un Bloodshot libéré de l'emprise de Rising Spirit. Celui-ci parcourt les zones de conflits mondiaux pour établir une sorte de justice et se faire pardonner ses exactions passées et exécutées pour le compte de Rising Spirit. C'est sans compter sur de nouveaux ennemis, considérant notre héros comme une menace à retardement pour le monde. L'affrontement sera rude, mais également l'occasion de rencontrer une faction qui agit dans l'ombre et dont les buts semblent pour le moins douteux et flous. Avec son dessin plus moderne, cet opus pourra conquérir un nouveau public, mais également assouvir les fans de la première heure. Avec un scénario qui s'oriente plus du côté action que réflexion et introduisant de nouveaux antagonistes, il n'est pas nécessaire d'avoir un bagage historique pour pouvoir en profiter pleinement. Et dernier ouvrage, et sans doute celui qui aura retenu le plus mon attention, il s'agit de Bloodshot Reborn, l'intégrale. Scénarisé par Jeff Lemire et mis en image par Miko Swayan, Butch Geiss, Lewis LaRosa et Doug Braithwaite, cet omnibus prend la place après The Valiant. Un arc narratif important de l'univers qui bousculera de façon radicale certains héros de l'univers Valiant. Oui, je sais, ça fait un peu de redite. Suite à cet arc, Bloodshot s'est vu purgé de ses nanites et retrouve une vie aussi normale qu'ennuyeuse. Devenu homme entretien dans un motel, il passe ses journées à réparer et à repeindre. Quant à ses nuits, il les passe avec pour seule compagnie de la drogue, de l'alcool et des cauchemars liés à sa vie d'avant. Et surtout, n'osant pas lire le dossier qui contient sa véritable identité. Effectivement, être purgé de ses nanites ne l'a hélas pas privé des souvenirs de ses nombreuses et violentes missions. Il est également hanté par des hallucinations, le souvenir de la femme qu'il aime et l'incarnation cartoonesque de Bloodshot, le fantasque Bloodskirt, qui le maintiennent tous deux aux portes de la folie. Tout se déroule aussi bien que possible jusqu'à ce qu'un individu avec la peau couleur de craie, le torse orné d'un cercle rouge, ne commette une tuerie dans un cinéma. Puis, un autre crime par un individu également à la peau blanche, dont le torse arbore également le fameux cercle rouge, sera commis. C'est le début pour Bloodshot d'une quête à la rencontre de son passé. Ce dernier va alors partir à la recherche de ce qui constitue à la fois son héritage et probablement son futur. Son périple initiatique est entrecoupé par l'enquête menée par l'agent Hoyt et la très spéciale agent Festival, oui, c'est bien son nom, sur le lien que peuvent avoir ces différents crimes. Le cours de leur enquête les mènera à découvrir qu'un autre individu, notre héros, semble suivre les mêmes traces et parfois avoir une longueur d'avance sur les enquêteurs. Un récit palpitant mené d'une main de maître par Jeff Lemire, questionnant la relation du héros avec ses pouvoirs, absents ou non, tout en ancrant une histoire dans notre réalité, grâce aux crimes perpétrés par les hommes au cercle rouge qui... sont hélas autant d'échos à des événements sinistres et bien réels. Graphiquement, le lecteur n'est pas en reste puisque les différents artistes ont su s'approprier le récit, chacun avec son style propre, mais également en s'accommodant de l'intégration visuelle de Blue Skirt, qui, dans son style cartoon, pourrait avoir nuit à la narration sans que cela ne nuise à l'ambiance. L'arc est suffisamment bien écrit pour être lisible sans connaissance préalable de l'univers, mais sa saveur n'en sera que plus grande si le passé de Bloodshot ne vous est pas inconnu. Je rappelle les ouvrages mentionnés, il s'agit de Bloodshot Intégral, Bloodshot la nouvelle série et Bloodshot Reborn. Ces trois ouvrages sont disponibles aux éditions Bliss Comics. On fait une nouvelle pause musicale avec une petite chanson pour apprendre aux enfants les gestes barrières. C'est Aldebert avec Corona Minus.
Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante.
Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un mètre dit la science, et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. D'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient. T'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain. Ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés. Jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide. Telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. Petit pangolin, je sais pas ce qui me retient. T'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais qu'on va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe. Déserter notre globe, satané microbe.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes à nouveau de retour sur le 101.5 de Radio G dans cette case de Seb. Vous venez d'écouter Aldebert avec Corona Minus, une petite chanson qui pourra aider vos enfants à s'approprier les gestes barrières, ce que je trouve plutôt cool. Allez, je vous en parlais en introduction, l'autrice japonaise Kan Takahama a été récompensée par le prestigieux prix Osamu Tezuka il y a quelques jours pour son manga La Lanterne de Nyx. L'occasion pour moi de découvrir ce manga inconnu au bataillon et de vous en proposer une critique. La Lanterne de Nyx est une série conclue en 6 tomes dans sa langue d'origine et la publication en France a été effectuée par les éditions Glénat, débutée en mars 2019, le quatrième tome ayant rejoint les rayons des libraires au début de cette année 2020. Le premier tome de la série avait été mis à disposition par l'éditeur français pendant l'opération Reste chez toi avec un manga le 28 avril dernier, en plein confinement. Nous avions déjà parlé de cette autrice à l'occasion de la sortie de la collaboration franco-japonaise Le goût d'Emma qui avait été publiée aux éditions Les Arènes BD. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce sera l'occasion d'aller chercher le podcast pour pouvoir le réécouter. Allez, concentrons-nous sur la lanterne de Nyx. De quoi ça parle ? Eh bien, l'action se déroule au Japon en 1878. Après de nombreuses années d'isolationnisme et de puritanisme, le Japon s'ouvre petit à petit au monde et découvre l'Occident et ses nombreuses merveilles. À Nagasaki, Mio, une jeune orpheline, commence à travailler dans le magasin 20. Oui, comme le chiffre. Ce magasin a pour particularité de commercialiser des objets en provenance d'Europe et plus particulièrement de Paris, où vient de se terminer l'exposition universelle. Peu dégourdie et instruite, Mio ne sait ni lire ni écrire à part son prénom, mais elle dispose d'une faculté très étrange, celle de connaître des informations sur les propriétaires passés et futurs de certains objets. Momotoshi, le fantasque propriétaire de la boutique, décide alors de prendre la jeune femme sous son aile et de l'instruire lors de ses moments libres. Au fur et à mesure des récits de Momo, mais également grâce au contact avec les objets de la boutique, une forte envie de découvrir Paris et l'Europe va commencer à se faire sentir pour Mio. Avec l'évolution du manga, la jeune femme progresse et grandit. À l'instar du Japon, elle s'ouvre au monde et découvre de nouvelles façons d'appréhender son quotidien. Curieuse, hein, Mio n'hésite pas à surmonter sa timidité naturelle pour tenter de sortir de sa zone de confort, toujours poussée dans ce sens par Momo et Genji, l'autre employé de la boutique. Petit à petit, certaines questions au sujet de Momo vont se poser. Qui est-il réellement et que cache le regard malicieux qu'il semble dissimuler derrière d'épaisses lunettes ? D'où lui vient la fortune nécessaire à des trajets aussi coûteux que fréquents vers l'Europe qui lui permettent d'approvisionner sa boutique en produits originaux et modernes ? Des produits qui sont autant de curiosités et source d'émerveillement pour les résidents de Nagasaki. À travers le regard de Mio, Ken Takahama nous fait découvrir cette Europe à travers le prisme japonais. Vous me direz que c'est bien beau, hein, et que vous connaissez quand même votre continent et votre pays. Alors d'accord, hein, je vous écoute. Sur la date de sortie de la première machine à coudre grand public, à partir de quelle date le chocolat à croquer est-il devenu bon marché ? À ces réponses, vous pouvez les trouver dans de petits encarts spécifiques permettant de recontextualiser certains objets évoqués dans l'histoire. Par exemple, on pourra y découvrir l'origine du fameux costume marin, le Sailor Fuku, porté par les écolières japonaises. Et plus largement, à quoi est dû le succès des vêtements occidentaux permettant de s'accommoder facilement de l'étiquette japonaise, hein, cette étiquette qui imposait de ne pas dévoiler son corps en public, pas du tout. Alors ces pages de contexte, hein, elles sont écrites de manière très décontractée et s'adressent au lecteur comme à un ami de la manière la plus naturelle qui soit, ce qui permet d'en profiter pleinement. Au niveau dessin, l'autrice nous propose un trait précis et détaillé qui se concentre beaucoup sur les visages, permettant une mise en valeur de nombreuses phases de dialogue. Vous l'aurez compris, l'échange d'expériences entre les protagonistes et le lecteur est au cœur du récit, et la construction est globalement au service de ces échanges. Attention, hein, les décors ne sont pas pour autant inexistants, mais dans une scène de rue, Ken Takahama préférera la dévoiler à travers les activités des passants, plutôt que de se concentrer sur la rue elle-même, rendant tout cela bien plus vivant et immersif. Au final, La Lanterne de Nyx est une belle découverte et son auteur mérite selon moi amplement le prix qu'elle vient de recevoir et au minimum que vous fassiez l'effort de découvrir cette série. Je redonne les références, La Lanterne de Nyx de Ken Takahama, 4 tomes à ce jour et c'est publié aux éditions Glénat. Continuons cette émission avec un album qui date de septembre 2019 mais qu'il fallait absolument vous conseiller. Il s'agit de Super Mickey de Pieter de Porter aux éditions Glénat. Alors toujours dans cette collection où la fameuse souris est confiée aux bons soins de différents auteurs, avec des réussites variées mais toujours ludiques, voyons ce que nous réserve cet opus en question. Pour ce Super Mickey, c'est l'auteur flamand Pieter de Porter qui s'est vu attribuer la lourde tâche de raconter une histoire en totale liberté. Quand on connaît le travail de cet artiste à l'imagination aussi inventive que débridée, on pouvait s'attendre à tout, ou encore mieux, ne s'attendre à rien et se laisser surprendre. Pour ceux à qui le nom de cet auteur n'évoque rien, voici une petite présentation. Pieter est un artiste dont le travail est publié dans la presse flamande et francophone. Son personnage fétiche est Dicky, un petit paysan sans réel savoir-vivre et dont les actions sont principalement instinctives. C'est l'occasion pour son auteur de le plonger dans des situations cocasses et parfois un brin osé. La magie s'opère grâce au contraste entre les situations et le trait graphique. En effet, de Porter travaille avec une ligne claire et des aplats de couleurs qui donnent à son dessin une naïveté qui rompt avec les situations vécues par son personnage. L'ensemble donne alors une sensation d'humour enfantin, évitant de trouver des situations graveleuses. Ce traitement donne alors une grande liberté à l'auteur, lui permettant de faire des blagues sur des sujets pourtant sensibles, comme en 2010 avec son album « Le fils d'Hitler ». Vous comprendrez donc que j'attendais cet album avec une grande impatience, étant fan de Dickie et de son humour si particulier. Mais alors, que donne ce fameux Super Mickey ? Alors pour son album, Pieter de Porter a choisi de mettre en avant un personnage qui, il me semble, n'est que peu souvent exploité de nos jours. J'ai nommé Super Dingo. Ce personnage, alter ego super-héroïque du fidèle compagnon de Mickey, est à l'univers Disney ce que Superman est à l'univers DC. Chaque fois que le danger guette, Dingo peut, en ingérant une cacahuète magique, revêtir le pyjama duveteux et la cape de Super Dingo pour défendre Mickeyville. Bon, j'avoue, je me rappelle plus du nom de la ville, mais c'est pas grave. Au niveau de ses pouvoirs, super force, super souffle, super vision et audition, et bien entendu, le vol. Vous comprendrez très vite la comparaison avec le héros d'acier. Dans cet album, Dingo découvre ses fameux pouvoirs et il décide de faire le bien dans Mickeyville au risque de sa santé. En effet, les cacahuètes lui donnent des pouvoirs mais ne le préservent aucunement de la fatigue. Et la pluie aidant, notre ami super-héroïque tombe malade, laissant la ville à la merci des malfaisants. Reprenant son style graphique, Pieter de Porter reste toutefois très sage dans son traitement de l'univers Disney. En livrant comme à son habitude une histoire sans parole, où les images sont suffisamment explicites pour être accessibles même aux plus jeunes, l'histoire est menée avec un bon rythme et s'avale sans vraiment s'en rendre compte. Heureusement, l'album fourmille de détails qui nécessitent une seconde lecture pour pleinement en profiter, comme on redécouvre un album de Où est Charlie ? Alors, reprenant le concept des super Picsou géants, l'album est divisé en plusieurs chapitres courts, ponctués de jeux, encore une fois accessibles au jeune public. Point à point, jeu des 7 erreurs, labyrinthe, vous y retrouverez certainement votre jeu préféré. En bas des pages de jeu, il y a également un petit strip qui permet de retrouver le personnage de Donald dans des mini-aventures qui sont plutôt fun et incongrues, souvent au détriment de ce dernier. Comme d'habitude dans cette collection, l'éditeur propose un album qui est plutôt soigné, très propre, plutôt classe, avec son dos toilé et puis ses écritures dans le dos, ce qui fait que c'est franchement sympa sur les étagères. Au final, Super Mickey est plutôt une bonne surprise qui séduira autant les fans de Mickey et de Pieter de Porter que les plus jeunes qui auront ainsi l'occasion d'y découvrir un album sans parole pouvant servir de point d'entrée dans l'univers d'une vieille art un peu plus adulte sans en avoir honte. Un seul reproche pourra selon moi lui être fait, celui de se lire hélas trop vite. Je redonne les références, s'agissait de Super Mickey de Pieter de Porter, c'est publié aux éditions Glénat. Et puis n'hésitez pas, si cet album vous plaît, à découvrir tout l'ensemble de la collection, ce sont autant d'occasions de découvrir les univers d'auteurs variés et tout aussi talentueux. Allez, c'est le moment de refaire une petite pause musicale avec celui qui nous quittait il y a peu, Little Richard et Long Tall Sally. Gonna tell and Mary Bond, Uncle John, he claimed he had the music, but he had a lot of fun. Come in and eat the back.
Radio G 101.5 FM.
De retour sur le 101.5 de Radio G, vous êtes toujours en pas direct du tout de la case de Seb. Vous venez d'écouter Little Richards avec le morceau Long Tall Sally. Allez, on continue sur les chroniques avec deux mangas dont les thématiques, à défaut du traitement, je trouve sont plutôt proches. La jeune femme dans la société japonaise. On commence avec Sayonara Miniskirt d'Aoi Makino, publié chez Soleil Manga. Sayonara Miniskirt est un manga de type shoujo, écrit et dessiné par Aoi Makino. Le premier tome a été publié en France en mars chez Soleil Manga et comporte actuellement deux tomes au Japon, la série étant toujours en cours là-bas. L'histoire, c'est celle de Nina, une jeune femme en marge de son école parce qu'elle refuse de vêtir l'uniforme destiné aux filles. Jupée marinière, elle préfère revêtir l'uniforme plus sobre, destiné aux garçons, et porter les cheveux très courts. La jeune femme va un jour faire la rencontre d'Ikaru, un jeune homme plutôt populaire de l'école et qui, malgré tout, ne semble pourtant pas courir après les filles comme les autres garçons de son âge. Ikaru semble d'ailleurs plutôt intrigué par le comportement de Nina, mais ne va pas la presser de questions, préférant lui laisser l'initiative de la rencontre pour se livrer. Et effectivement, avec leur rencontre, Nina va petit à petit s'ouvrir et commencer à éprouver des sentiments pour ce jeune garçon plutôt prévenant envers les filles et bien loin des clichés macho habituels. Mais Nina lutte contre ses sentiments naissants puisque le souvenir d'une violente agression subie lorsqu'elle était une idole, une sorte de girls band japonais, a laissé ses émotions à vif. Ce souvenir, responsable de son rejet des codes vestimentaires de l'école, suscite en elle une méfiance envers les autres quasi maladives. Un sentiment qui se renforcera lorsqu'un agresseur commencera à sévir autour de l'école, obligeant les jeunes femmes à sortir en groupe pour se protéger d'une éventuelle agression. Ne donnant sa confiance qu'à elle-même, Nina rentrera alors seule à son domicile. Alors, en présentant un personnage fort à contre-courant des usages et traditions qui ont pourtant un poids énorme au Japon, l'autrice n'hésite pas à vouloir interpeller le lecteur dans un genre qui reste habituellement plutôt stéréotypé, avec des codes bien précis. Nina est un personnage complexe qui a vécu l'hypersexualisation à travers sa carrière d'idole. Alors je vous laisse chercher des vidéos sur internet pour prendre la pleine ampleur du phénomène au Japon. C'est quelque chose qu'il faut voir pour comprendre. Et elle va vivre un traumatisme ayant pour conséquence au final de lui faire refuser même sa propre et naturelle féminité. À un âge où la construction de soi est le grand enjeu des relations sociales, Nina est brisée et bloquée dans son propre corps, sans perspective d'évolution. Le contact d'Ikaru est alors pour elle une possibilité de s'ouvrir au monde si elle parvient à déplacer ses blocages sans toutefois s'y blesser. Aoi Makino fournit une histoire avec des thèmes forts et peu abordés de manière aussi frontale dans le shoujo, un genre qui est habituellement beaucoup plus léger. L'autrice n'oublie cependant pas de développer une histoire avec du suspense qui entraîne le lecteur dans une enquête à la recherche d'indices sur l'identité probable de l'agresseur. Le tome se termine d'ailleurs sur un cliffhanger frustrant qui suscite d'autant plus l'attente du prochain volume. Au niveau dessin, le travail est de qualité avec un trait fin et détaillé qui correspond facilement à ce qu'on attend d'un shoujo. Toutefois, l'autrice a su composer des cadrages pour donner une dynamique efficace aux quelques scènes d'action qui parsèment l'histoire. Ces passages, qui sont les bienvenus, cassent une narration qui consiste parfois à suivre des scènes dont la composante principale est la discussion. Au final, Sayonara Miniskirt est une belle découverte puisque dans un genre plutôt classique, ce manga renferme des réflexions sur les clichés, même qu'ils peuvent parfois véhiculer, tout en restant captivant de bout en bout. Je redonne les références, Sayonara Miniskirt, c'est d'Aoi Minako, et c'est publié aux éditions Soleil Manga. Avant de vous dévoiler le second album de cette sélection, on se fait une nouvelle pause musicale avec Sigrid High-Five.
Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet. Do what you want, who cares if you get hurt? No, I don't know why you wonder why, wonder why, wonder why. You're surrounded by the type of people that never say why you don't want to hear, so they just stay quiet. Oh, everybody loves a show. Let's only all go home. You won't let anybody close that eye.
www.radio-g.fr.
Vous êtes toujours de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. On parle toujours 9e art, on parle encore manga avec ce deuxième album de la sélection. Le deuxième tome de cette thématique se nomme Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'est un manga qui est scénarisé par Hajime Kamoshida et dessiné par Tsugumi Nanamiya et publié en France aux éditions Ototo. Je m'excuse, j'ai ma langue qui fourche. Le premier tome est sorti en mars de cette année et le deuxième et dernier volume est prévu pour une sortie sur notre territoire le 5 juin prochain. Ce manga est l'adaptation du premier tome de la série de light novel écrit par Hajime Kamoshida qui scénarise aussi l'adaptation. C'est une série de light novel qui est plutôt populaire au Japon et qui a déjà eu droit à plusieurs adaptations. En série animée, d'autres volumes en manga, puisque c'est une série qui est sur plusieurs arcs, et en 2019 en film d'animation. L'histoire de cette série se centre sur un jeune garçon du nom de Sakuta Azusagawa, encore une fois je m'excuse pour la prononciation, qui va enquêter sur plusieurs jeunes femmes atteintes d'un mal étrange. Mais penchons-nous plutôt sur ce premier tome. Sakuta, notre héros donc, est tranquillement en train de choisir un livre dans une bibliothèque lorsque surgit devant lui une jeune femme habillée en bunny girl. Alors ne faites pas semblant, hein, vous voyez très bien ce qu'est une bunny girl, hein, ces jeunes femmes popularisées par le magazine Playboy, seulement vêtues d'un maillot de bain, oreilles de lapin vissées sur la tête et manchettes blanches au poignet, histoire d'avoir l'air un tantinet habillé. Mais seulement voilà, personne d'autre hormis Sakuta ne semble prêter attention à l'accoutrement de la jeune femme dans un endroit aussi incongru qu'une bibliothèque. Ni même à la jeune femme toujours, hein, semble-t-il. Puisque Sakuta prend très vite conscience qu'elle n'est nul autre que Mai Sakurajima, une jeune actrice adolescente très populaire au Japon. Sa rencontre avec Sakuta est d'ailleurs le début d'une histoire fantastique, puisqu'à travers Mai, Sakuta va découvrir une maladie bien étrange que cette dernière nomme « syndrome de la puberté ». Ce syndrome, qui touche seulement les jeunes femmes adolescentes, est la raison pour laquelle personne ne semble remarquer l'accoutrement si particulier de Mei, ni même sa présence tout court. Sakuta l'apprendra par la suite, mais cette étrange affliction n'affecte pas toutes les jeunes femmes de la même manière, mais toujours de façon quasi surnaturelle. A l'inverse de Sayonara, dont je parlais il y a quelques instants, Rascal est de type shonen et par conséquent destiné à un public masculin. Chaque genre utilisant ses codes pour le traitement est donc bien différent, mais la thématique est pourtant bien semblable, l'acceptation de son corps lors du passage à l'âge adulte, à travers cette évolution. Dans Rascal, l'utilisation du syndrome permet d'utiliser la métaphore moins subtile du fantastique pour faire passer son message. Au niveau du dessin, c'est soigné, hein. Les personnages sont plutôt expressifs et les différents designs des jeunes femmes bien élaborés. Vous l'avez noté, j'ai parlé des jeunes femmes, car Sakuta est quasiment le seul personnage masculin du manga. La destination masculine du lectorat oriente d'ailleurs, vous vous en doutez, sûrement le dessin vers quelque chose d'assez visuel à base de jolies femmes, aux formes bien mises en avant, frôlant parfois avec des clichés peu subtils, proches du fanservice. Le cadrage, s'il est plutôt classique, reste dynamique et efficace pour une lecture fluide. Loin d'être complètement caricatural, Rascal joue aussi beaucoup sur l'humour situationnel. En effet, dans sa situation, Mei est plutôt désagréable envers Sakuta, mais a paradoxalement un besoin quasi vital de sa présence. Invisible pour quasiment tout le monde hormis Sakuta, elle ne peut même pas s'acheter à manger sans son aide. Avec son utilisation du fantastique et son côté shonen, Rascal oriente la réflexion de manière récréative sur la puberté, tout en renforçant de manière visuelle les changements radicaux qu'elle peut produire. Au final, Rascal peut être à la fois un manga détente ou le point de départ d'une sensibilisation à la détresse adolescente. Dans les deux cas, il incite fortement à se tourner vers le light novel d'origine pour y découvrir les autres histoires. Je redonne les références. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, c'est scénarisé par Hajime Kamoshida et dessiné par Tsugumi Nanamiya et c'est publié en France aux éditions Ototo. Ce sont deux mangas que j'incite fortement à donner à vos adolescents puisqu'ils vont les orienter sur des petites réflexions et peut-être leur permettre d'évoluer de manière un peu plus tranquille vers leur vie d'adulte.
That's all, folks.
Et oui, vous venez d'entendre Porky qui, c'est la fin de cette émission. On est peut-être encore loin de la fin de l'heure, mais comme vous avez pu le remarquer, on a besoin de passer beaucoup plus de musique. L'enregistrement, le montage, me prenant beaucoup plus de temps tout seul pour vous préparer ces émissions depuis mon chez-moi, je suis obligé de prendre beaucoup plus de temps d'écriture et du coup de composer pas mal de musique. Pour pouvoir vous permettre de continuer à bénéficier d'une émission de manière régulière. Promis, je fais beaucoup d'efforts. J'espère que vous prenez quand même beaucoup de plaisir à écouter cette émission, autant que je prends du plaisir à vous préparer ce contenu. C'est la fin de cette émission pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous, si tout va bien, la semaine prochaine. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Kitty, kitty. Then